Il fait des mots, c'est un nouveau laptop et pourtant ça s'affiche tout seul, c'est magnifique. Alors, bien bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par une superbe félicitation aux organisateurs parce que une conf comme ça à Paris, organisée comme ça, à l'américaine entre guillemets, j'avais jamais vu. Donc, big applause, c'est super. Donc, je vais vous causer des standards HTML et CSS. Des origines à mercredi dernier de l'homme préhistorique à l'Uber geek que je suis. Donc il faut un geek dans une conférence de ce type, c'est moi, bonjour. Je n'ai pas de barbe, je n'ai pas de t-shirt noir, je ne mange pas que des pizzas, et pourtant je suis un geek. Je vais prendre un peu le contre-pied de tout ce qui vous a été dit depuis hier matin pour vous expliquer qu'un standard n'est pas la panacée, qu'un standard peut être une erreur, qu'un standard est en fait le résultat de la conception et du travail d'êtres humains, et que tout standard doit être vu pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce résultat du travail d'un être humain. En particulier, HTML et CSS et les autres standards, qu'ils soient de facto ou des jurés du web, ont besoin d'être évalués pour ce qu'ils sont, et peu de gens savent vraiment ce qu'ils sont. Je vais essayer de vous présenter ça. Ça risque d'être quand même un petit peu technique. Alors, il y a des non-techniciens dans la salle. Au moindre pépin de compréhension, surtout n'hésitez pas à interrompre et à lever la main et je répondrai immédiatement. On va embrayer très fort, vous allez voir. Alors, puisque tout le monde s'est présenté, je vais quand même un peu présenter l'animal qui est en face de vous. Parce que ça va éclairer un tout petit peu qui je suis et pourquoi je peux me permettre de parler de tout ça. Donc, comme je disais, je suis un Uber geek, je suis tombé dans l'informatique à l'âge de 9 ans. Sachant que j'en ai 40, j'ai 31 ans d'informatique derrière moi. J'ai commencé en langage PL1 sur des cartes perforées sur un IBM 1130 à écran oscilloscopique. J'ai toujours 8 kilos de cartes perforées chez moi. Ça se patchait non pas avec un clavier, mais avec une perforatrice de tiercé. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et certains bugs se corrigeaient surtout avec du scotch pour fermer les petits trous dans la carte perfo. Je grenouille dans les standards depuis quand même pas mal de temps, puisque j'ai mes premiers contacts avec SGML datent de 1989, que je suis dans les premiers implémenteurs de la spécification, enfin de la RFC MIME, qui est le Multi-Purpose Internet Extensions pour la messagerie, donc le mail multimédia, si je dégrossis très fort. Je suis le premier implémenteur des tableaux CALS dans un éditeur WYSIWYG. Les tableaux CALS, c'est un modèle de document du ministère de la Défense américain. Et les tableaux CALS ont fini par donner les tableaux HTML plusieurs années plus tard. Je suis le premier implémenteur du transfert de fichiers au-dessus d'HTTP en GET et PUT. Bon, ça fait un certain historique assez douloureux à porter, qui me vaut quelques surnoms d'oiseaux dans les mondes de la standardisation, mais c'est pas grave. Je suis aussi un ancien membre du HTML Working Group de la grande époque, c'est-à-dire l'époque où on a standardisé HTML 4, et toujours membre du CSS Working Group, où j'ai participé à CSS 2, et je suis toujours auteur ou éditeur de plusieurs modules de CSS 3. Donc je connais bien le W3C, je suis devenu membre du W3C, c'est-à-dire en fait participant au Working Group en 1996 ou 97, je sais plus, ce qui fait quand même un certain temps. Et avant ça, je grenouillais déjà dans l'IETF et dans ces monolinguistes. Professionnellement, j'ai commencé ma carrière chez Griff, que certains d'entre vous ont peut-être vu dans le livre de Tim Berners-Lee, Within the Web. C'était le premier éditeur SGML WYSIWYG, et Tim Berners-Lee voulait en faire le premier éditeur browser de HTML. Malheureusement, ils n'ont pas voulu, ce qui vous laisse à donner beaucoup de choses, penser beaucoup de choses sur la capacité intellectuelle du dirigeant. Quand même, je veux dire, se faire proposer le web et dire non, c'est extraordinaire. J'ai ensuite passé 6 ou 7 ans à expérimenter la pesanteur bureaucratique et l'inertie à l'électricité de France. Ce qui m'a amené à faire autre chose d'ailleurs, après, bien entendu, puisqu'au bout d'un moment, j'en ai eu un peu ras-le-bol, j'ai claqué la porte. Mais EDF a quand même eu l'immense mérite de m'envoyer au W3C. Et moi, j'ai été là, le petit étudiant en face d'un troupeau de gourous. Je suis arrivé dans un groupe de 20 personnes, où il devait y avoir 18 millionnaires en dollars. Je sais pas si vous avez évidemment le web, hein, ça a un peu explosé. Et j'ai appris énormément, et puis j'ai fini par contribuer un petit peu. À la suite de ça, je suis passé chez Amazon France, dont j'étais directeur technique brièvement. Ensuite, une web agency, dont j'étais directeur technique aussi. Et je me suis fait débaucher par Netscape pour revenir à mes anciennes amours, la technologie, où je me suis occupé de l'éditeur et du style engine. Donc certains des sélecteurs CSS3 dont Pascal a parlé hier, dans Mozilla, c'est moi qui les ai implémentés. Par exemple, Column Note ou certains des sélecteurs d'attributs, c'est moi qui les ai faits. Et à la chute de Netscape, j'ai tout simplement refusé de retravailler pour une entreprise française, parce que travailler avec une entreprise française après Netscape, je sais pas si vous imaginez, dans le management à la française, c'est plus possible. Et donc j'ai créé ma boîte pour continuer exactement ce que je faisais avant, c'est-à-dire l'éditeur. Et certains d'entre vous ont peut-être utilisé NVU, qui est l'éditeur WYSIWYG basé sur Gecko. Bon, ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et on va s'arrêter là. Alors, on va faire un petit sondage à main levée très vite. Vous allez lever, baisser les bras au fur et à mesure. Mais c'est vraiment pour moi, pour que je sache quelle est votre connaissance. Qui faisait déjà du web avant 2000? Avant 96? Avant 94? D'accord. Donc la plupart d'entre vous ne savent absolument pas ce qu'est GML et Bookmaster, par exemple. Les gens d'IBM dans la salle savent. Alors que le web existait déjà et que PDF existait déjà, 80% de la documentation technique mondiale, je dis bien mondiale, était écrite dans deux formats qui s'appellent GML et Bookmaster. Donc ce sont des trucs absolument majeurs que le grand public ignore totalement, sauf les geeks que vous êtes, parce que TeraRoth vient de ce monde-là. Ceux qui font du Roth, GML et Bookmaster, c'est à peu près équivalent. Et le mot de tag ne date pas de SGML et d'HTML, on parlait déjà de tag à l'époque. Donc l'historique d'HTML et de taguer le contenu textuel remonte à très, très, très loin. GML et Bookmaster, donc IBM, GML signifiait déjà Generalized Markup Language, ont dérivé donc vers NRoth, TeraRoth, etc. Et puis en 1986, une norme ISO qui s'appelait SGML, toujours à l'initiative majeur d'IBM, pour faire évoluer le GML qui était beaucoup trop orienté formatage et pas assez contenu, et ça a donné ce que vous connaissez certainement, donc les tags avec Python, grand, etc. Mais c'était encore d'une complexité assez phénoménale, parce que SGML était prévu pour pouvoir complètement redéfinir sa propre grammaire. Donc tout ce que vous avez en SGML, les piquants, les points d'exclamation, les moins pour les commentaires, tout ça, je ne sais pas si vous savez, peut être redéfini. Vous pouvez complètement changer ça et avoir en fait une structure documentaire, des instances documentaires qui vont ressembler à du GML et du Bookmaster. Parce qu'IBM a voulu ça, c'était pour pouvoir récupérer son existant. Donc HTML est un produit, un langage dérivé de toute cette historique. C'est pas sorti brutalement d'un chapeau ou du cerveau génial de Tim Berners-Lee, il y avait quand même une évolution de fond, lui-même s'est documenté sur beaucoup de choses, on va voir ça maintenant. Du côté CSS, c'est un petit peu plus simple, il y avait beaucoup moins de choses en présence, il y avait DSSL, DSSSL, qui est un langage de formatage essentiellement dédié au batch processing, d'une complexité absolument faramineuse. Pour ceux qui connaissent la donnée XSL, aujourd'hui, XSLFO, c'est un dérivé. Il y avait les FOSI qui sont un autre langage de style, tout aussi complexe et souvent qualifié par les experts de, je cite, imbitique, et avec juste raison d'ailleurs. Et il y avait le langage P que les gens qui grenouillent dans le W3C connaissent bien et que moi aussi, puisque j'ai implémenté une bonne partie du style engine. Qui est implémenté par Amaya et par Griff avant lui. P est un langage tout à fait génial, assez magnifique, beaucoup plus puissant que les CSS tout en étant simple. Et je vous engage fortement à aller sur le web pour vous documenter là-dessus. C'est une très très belle chose. Un exemple de TeraRoth. Donc GML, Bookmaster, TeraRoth. Donc vous remarquerez les très belles choses qui commencent par des points suivis de deux caractères. Ce sont des tags. Ça donne des indications de formatage ou de structure. Si vous avez lu une manual page de Unix dans le texte, vous connaissez tous ça. C'est super maintenable, vachement lisible et un véritable plaisir à éditer à la main. La seule garantie que vous ayez, c'est que si vous le formatez, ça va donner quelque chose. Mais alors quoi ? Vous n'en avez aucune idée. C'est donc un vrai bonheur pour la documentation. Vous imaginez 80% de la doc technique mondiale là-dedans ? Enfin bon, c'est hein, IBM, ça a assuré des beaux jours d'IBM pour la maintenance des documents. Hein ? SGML quand même faisait beaucoup plus fort. Donc là, vous commencez tout de suite à voir des choses que vous connaissez bien, en particulier, on reconnaît les doctypes que certains manipulent, pas tous malheureusement dans HTML4. Ça, c'est un exemple qui date de 1986, du moment de la sortie de la norme ISO. Donc, les gens qui se documentent un tout petit peu sur ce que fait le What Working Group ou XHTML2, je pense que vous allez retrouver des choses assez connues. La segmentation d'un document de type rapport en section et titre de section et contenu de section, faut pas croire que ça aussi ça sort d'un chapeau. On a l'impression que c'est réinventé par le W3C en ce moment. Comme d'habitude, on réinvente la roue et tout ça a 20 ans. Il serait temps que certains se documentent. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Les premières versions d'HTML. Alors, je suis allé faire un petit peu des fouilles si on peut parler de fouilles archéologiques sur le web. Je me suis bien marré, parce que je suis allé regarder dans les sources du premier navigateur web de Tim Berners-Lee, je suis tombé sur le premier texte que vous avez là-haut. Donc l'hypertexte, c'est comme du texte, mais ça a des liens vers d'autres hypertextes, venant d'autres hypertextes. C'est la première mention connue d'hypertexte dans le domaine du web. Il y en avait déjà avant, je pense à Douglas Engelbart en particulier, qui avait bien implémenté la notion d'hypertexte. Mais dans le domaine du web au CERN, c'est la première mention. Je trouve ça assez fabuleux quand même. L'hypertexte, c'est du texte avec des liens. C'est très bon. Vous avez derrière ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier document HTML absolument authentifié. Il semblerait qu'il y en ait un antérieur, écrit par Tim Berners-Lee lui-même, il a été perdu, parce qu'il était sur un serveur du test du CERN, et ce serveur a été désactivé lorsque le W3C s'est formé. Donc le seul dont on est sûr qu'il soit vraiment ancien, c'est celui-là, parce que le last modify dans HTTP date vraiment de novembre 90. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de doctype. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de paragraphe, qu'il n'y a pas de head, il n'y a pas de body. Mais les tags sont déjà là, et surtout les liens sont déjà là. Un élément que peu de gens ont repéré en analysant ce document, c'est que l'extension .html est là aussi. Et que le 8+3 de Windows s'était développé sur une machine qui avait des capacités déjà à l'époque. Un petit peu plus tard, vous allez avoir le premier truc un petit peu étonnant dans le web. L'apparition de listes. Alors, Tim Berners-Lee a écrit sa première liste ordonnée en faisant un truc assez étonnant. Je sais pas, je pense que ça venait de Roth et des choses comme ça. Il a commencé par OL et il a fini par Hello. Ce qui se fait souvent dans le code, hein, le if, fi, des choses comme ça. Et vous remarquerez que il utilisait vraiment les possibilités de SGML parce que les items de liste ne sont pas fermés. Donc c'est une fermeture implicite. Quand vous atteignez un nouvel item de liste, ça ferme le précédent. Donc, toujours vraiment dans les fouilles archéologiques, les premiers trucs un peu spéciaux. Donc un titre qui commence avec un T majuscule et finit avec un T minuscule. Un paragraphe qui n'est pas un paragraphe, mais qui est un saut de paragraphe. Tim Berners-Lee évoque la chose avec beaucoup de pudeur désormais. Mais le paragraphe, je vois pas pourquoi il y a un P devant le deuxième et pas un P devant le premier. Hein. Et surtout, la première erreur de markup, que j'adore. On commence par un OL et on finit par un UL. Je l'adore. J'adore. Alors, la sémantique dans tout ça, je suis désolé d'amener un gros mot. Mais il n'y avait pas de sémantique du tout. Et quand on raconte que le web s'est formé avec une idée de sémantique, c'est de la connerie plus récente. Je suis désolé, tous les écrits de l'époque, je suis désolé Karl, mais ça, c'est factuel. Tu penses tellement fort que... Clairement, Tim Berners-Lee et les quelques personnes, parce que ça se comptait sur les doigts d'une main qui grenouillait autour, Robert Cagliari et d'autres, voyaient le web beaucoup plus stylistiquement que sémantiquement. Hein, cette phrase le prouve, c'est une phrase de Tim Berners-Lee lui-même. Donc P indiquait un saut de paragraphe et pas un paragraphe, donc c'est quelque chose de strictement visuel, c'est une rupture de bloc et pas un bloc. Hein. Il voyait les tags essentiellement stylistiquement, Et la structure était totalement plate, déjà, dans ces documents de l'époque. Les premiers documents qui expliquent un tout petit peu ce qu'est HTML, vous ne voyez pas cette belle arborescence dans les documents, comme dans les rapports, section, sous-section, etc. C'est au contraire, mais c'est d'une platitude totale. C'est le modèle en râteau d'HTML que vous connaissez tous. Les débuts de la standardisation, ça a été très difficile. Donc, la première mailing list sur le sujet a été lancée assez tôt, en 1991, et le moins qu'on puisse dire est que les débuts ont été lents. Il n'y avait pas grand monde, et ça discutait extrêmement peu, en particulier de sujets techniques. Ça commençait à s'animer un petit peu quand un gars appelé Dan Connolly, qui est désormais un des vrais piliers du web, a débarqué en posant des vraies questions techniques, et à faire des suggestions techniques. Visiblement, le lien s'est établi extrêmement fort avec Timmer Rastick très très vite. Dan Connolly est assez peu cité comparé à Tim. Le web ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans lui. Hein, c'est très important de le dire. Grandir la typo. Ah oui, mais flou, là, moi, c'est pas moi. Hein. Non, non.
J'aime les suggestions sympas. C'est mieux, mais... Allez,
on va essayer. On va essayer. Donc, ça a continué comme ça assez longtemps, avec vraiment un micro-groupe. Jusqu'à ce qu'on atteigne le premier descriptif, parce qu'on ne peut vraiment pas appeler ça une spécification, c'était vraiment quelques... Comment est-ce que je peux appeler ça ? C'était une fac, voilà. Hein. Jeté dans quelques documents placés sur le web, c'était totalement sous-spécifié. Mais quand ça s'est apparu sur le web pour décrire un tout petit peu HTML, les gens ont commencé à les regarder... les universitaires en particulier, puisque c'était essentiellement un milieu universitaire, et on a commencé à papoter pour voir ce qu'on pouvait rajouter ou supprimer ou améliorer. Mais ça a été vraiment très très lent entre l'établissement de la mailing list et ce premier descriptif de HTML, il s'est bien écoulé une bonne année. N'hésitez pas à m'interrompre hein, pour des questions. Ça a commencé vraiment à accélérer en 1993 seulement. Les premières idées du web datent de 1989. Vous voyez, c'est pas du tout l'explosion qu'on a pu nous vivre dans les années à partir de 95. Les premiers navigateurs apparaissent, Mosaic en particulier, Viola et d'autres, Lynx, qui est très vieux aussi, faut pas l'oublier, qui implémentent HTML comme ils peuvent, puisqu'il n'y a pas de spec HTML. Ça donne des différences de rendu absolument monumentales, et en fait tout le monde s'en fout, parce que tout le monde trouve ça génial, le tout le monde étant réduit à... Vraiment, peau de chagrin, je vous rappelle qu'en 1994, au mois d'avril, la France comptait 30 serveurs web. Ils étaient tellement rares qu'ils étaient cités individuellement, géographiquement, sur la carte de France gérée par l'UREC. J'en ai un souvenir émouvant. C'était le bonheur. On voyait de temps en temps un serveur apparaître, on allait tous voir, c'était chouette. Et alors, ce côté magnifique de la sous-spécification d'HTML permettait... Un, d'apprendre HTML super vite, et vous avez tous appris HTML super vite juste en regardant les sources, et peut-être éventuellement après, 6 mois plus tard, après avoir commis 10 000 erreurs, c'est-à-dire regarder des specs ou acheter un bouquin. Et pareil pour les implémenteurs, du coup ils l'ont étendu vachement facilement, de manière totalement inopérable, bien entendu, mais ils l'ont étendu. Le problème, c'est que c'est devenu un foutoir majeur. C'était n'importe quoi. Chacun avait son HTML. Et les extensions spécifiques étaient bien entendu des avantages concurrentiels. Et il était donc hors de question de standardiser tout ça et de le proposer, puisque le but était de sortir une nouvelle version le plus vite possible avec le plus d'améliorations possible. Donc c'était très 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 mauvais tout ça. Le carburant. Netscape, en particulier, a été considéré comme un très très mauvais acteur de la standardisation à ses débuts, puisque Netscape ne participait absolument pas aux discussions de l'IETF sur HTML, et implémentait 10 000 trucs en pas perruque, mais vraiment en mode stealth, comme disent les Américains. Surtout, on dit rien, et à la version qui sort, pouf, vous avez plein de trucs qui apparaissent. Ça a été assez mal vécu, par moi-même y compris, dans la standardisation, parce qu'on voyait arriver des trucs où on aurait pu, c'était pas contrôlé, c'était pas changé, mais juste apporter une petite bonne idée, quoi. Histoire de faire le truc un tout petit peu mieux, ou un tout petit peu plus convergent avec d'autres. Et en fait, ils étaient pas du tout intéressés. Ça a changé, heureusement. Le jour où ils ont commencé à nous proposer les frames, qui, de mémoire, avec les cookies, doivent être les deux premières propositions vraiment sérieuses de standardisation de Netscape dans les mailing lists. Ce jour-là, on a vu Netscape arriver en disant, nous avons une suggestion, bonjour, je m'appelle Eric Rock, je crois, de mémoire, et nous voudrions vous proposer les frames. Et tout le monde a fait, bah, et moi j'ai fait, ouais! Je sais, t'as joué, c'était génial. Bon, ils auraient pu faire plus propre. Beaucoup plus propre, passer par la standardisation, éviter de standardiser les tags font, color, des choses comme ça. Mais c'est pas dit que ça aurait eu le même succès. Je pense que le fait que Netscape ait fait CRUD est un élément majeur de l'avancée du web. On n'aurait pas fait sans ça. C'est assez iconoclaste de le dire. Je dois être un des rares à le faire, mais on avait besoin de ça peut-être. Bon, malheureusement, on pouvait pas continuer. Enfin, heureusement, on pouvait pas continuer longtemps comme ça. C'était hors de question. Le foutoir dégénérait totalement. Dès que Netscape arrivait quelque part, c'était la forme empoigne. Microsoft avait, enfin, commencé à montrer des velléités de faire un virage sur l'aile à 180 degrés. On a vu ce qui s'est passé quand Bill Gates a fait son discours en disant tout ce qu'on faisait avant c'est de la merde et maintenant c'est l'internet et le web. Ce qui a surpris beaucoup de monde, mais pas vraiment les gens de la standardisation du web. Et il fallait faire beaucoup mieux que les discussions totalement ouvertes de l'IETF, qui vraiment dégénéraient. Donc le W3C a été une idée lancée par le MIT, d'ailleurs, si je me souviens, à Tim Berners-Lee, qui a sauté sur l'occasion, parce que ça se présente une fois dans une vie. Oui, carrément.
Un détail technique, il y a eu le X Consortium avant, qui était pour les interfaces Unix à X-Window, et beaucoup de gens du MIT travaillaient là-dedans, et c'est comme ça un peu que l'idée du consortium W3C a émergé.
Oui, absolument. Le X Consortium, qui avait démontré qu'on pouvait faire un consortium industriel pour développer des standards ouverts et de la technologie, a eu une influence extrêmement bénéfique, pas seulement pour paver le chemin, quoi, et montrer que c'était faisable, mais aussi, il y a eu pas mal de gens de X-Consortium lui-même qui ont débarqué au W3C, hein. Il y a Daniel, Arnaud Lehors, il y a quand même pas mal de monde, hein. Oui, en plus. Alors bien entendu, ça a donné une querelle de clochers avec l'IETF absolument monumentale, et on en est pratiquement venu aux mains, et ce n'est pas une exagération. Il y a eu des meetings extrêmement houleux. Moi, j'ai assisté personnellement à des discussions entre gens du futur W3C et des gens de l'IETF, où ça s'est très, 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 très mal passé. Parce que les gens accusaient le futur W3C de prendre le futur du réseau. Et le W3C partait avec HTTP et HTML, qui étaient à l'IETF avant. Dave Raggett, un nom aussi très, très important, débarque dans ce chaos majeur. Et dit attendez, là ça va plus du tout, on n'a même pas de modèle, moi je vais écrire une DTD et on va faire une spec propre. Et à la surprise de tout le monde, il arrive avec un truc qui s'appelle HTML+, et qui nettoie HTML d'une façon assez extraordinaire. Et là, vraiment, là c'est le départ vrai de la standardisation. Là ça a attiré beaucoup de monde, ça a attiré non seulement les gens de SGML, mais aussi tous les gens qui faisaient des moteurs de restitution, parce qu'ils avaient enfin du solide pour implémenter. On a évolué assez vite vers HTML 3.0, qui n'est jamais sorti parce qu'il avait quelques soucis, et on a basculé sur HTML 3.2, qui est la première véritable spec sortie par le W3C en la matière, qui est vraiment la base assez dégueulasse, mais la base du HTML d'aujourd'hui. Premier problème, je l'ai cité juste pour mémoire, le 20 août 95, c'est pas référence à un blogueur connu ici, quoique je pense qu'il a pris son nom à cause de ça, c'est Eolas à qui on accorde la première patente, le premier brevet logiciel sur les objets et les applets embarqués dans une page. Ça a défrayé la chronique quand même pendant plus de 11 ans maintenant, et c'est pas fini. Donc les emmerdes commencent, hein. Alors, stabilisation, HTML4, j'ai participé à sa rédaction et à son établissement, sort en 97. résultat des travaux d'un working group géré par Dan Connolly, toujours le même, et l'adoption est immédiate. L'implémentation était déjà en grande partie faite d'ailleurs par les navigateurs, et c'est pas pour rien, c'est que ça a été un succès majeur. Je vous rappelle que malgré que XHTML 1.0 et 1.1 existent aujourd'hui, qui ne sont que des XMLisations de HTML4, le web aujourd'hui est HTML et rien d'autre. Et puis après la sortie de ça, plus rien. À part, comme je vous le disais, XHTML, qui est juste mettre les tags comme il faut, doc tag comme il faut et supprimer les ambiguïtés de SGML, il s'est plus rien passé. On va y venir. C'est un des points qui, j'espère, vous fera comprendre que un standard n'est pas un standard avant que ça soit un standard. C'est important de le dire. Un standard est un standard pour un temps donné. Au bout d'un moment, il est remplacé par un autre standard qui lui-même devient le standard. Je ne sais pas si c'est très clair, mais la vérité n'est pas acquise. Un standard peut se planter. Il y a quand même des specs W3C, LUTF ou ISO qui n'ont jamais été implémentés correctement, voire jamais implémentés du tout, hors des deux implémentations de preuve de concept. Il y a des trucs qui sont juste complètement déconnants, quoi, parce que c'est fait par des geeks qui sont à côté de leur pompe. Il y en a un, si. Et certaines specs peuvent être, je veux dire, décalées par rapport aux besoins du marché. Je pourrais vous citer VHS et Betamax, mais on pourrait en trouver pas mal d'autres. Hein. C'est assez aisé. Les region codes dans les DVD. C'est un truc complètement contre-productif pour le marché. Tantek Chelik, qui est un gars que vous connaissez certainement tous, qui est le gars qui a fait le moteur de restitution de Mac Internet Explorer, et qui est donc un grand blogueur, un grand gars du design désormais, chez Technorati, a dit un jour, l'industrie du disque et du cinéma veut faire un format de protection, mais laissez-les faire, ça sera craqué dans 3 jours. Et ils ont entièrement raison, ils sont tellement nuls que de tout. Alors, on va basculer un peu sur CSS, qui est mon bébé actuel. La standardisation des CSS, c'est une idée en fait qui a émergé tout doucement à partir de 93. Le besoin d'avoir du style séparé du contenu pour être capable, un, d'appliquer ce style à plusieurs pages, deux, faire un peu plus propre que ce qu'on savait faire en HTML. Il y avait toute une problématique derrière. Et puis il fallait être capable de faire une nouveauté complète qui a été proposée par O'Connelly et Bert Boss, qui était de mixer les différents styles, un, voulu par l'auteur, deux, imposé par l'usager, en particulier pour ses problèmes d'accessibilité, ou d'environnement hardware, logiciel, tout ce que vous voulez, et trois, les styles imposés, lui, par le client de restitution, votre navigateur. Avant, les styles étaient imposés par l'auteur, et l'usager et le client n'avaient pas leur mot. Dans le Z-Edison, il n'y avait que les feuilles de style du document. Enfin, pas de client CSS. Donc ça, c'est l'idée géniale de O'Connelly et Bert Boss, c'est les cascading style sheets, c'est le principe de la cascade. Les CSS ont eu beaucoup à faire parce qu'il y avait d'autres suggestions en la matière. En particulier Netscape avec quelque chose qui s'appelait les JSS, que peu d'entre vous connaissent, qui étaient des feuilles de style basées sur JavaScript. Donc on prenait un élément, donc un nœud au sens DOM, donc node.style.color égale rouge. Donc ça vous rappelle le DOM, certes. C'est la base du DOM, mais c'était à l'époque le seul moyen de faire du style. Donc c'était très problématique, ça posait des problèmes de performance, ça posait des problèmes de, à l'époque, énormément de gens désactivaient JavaScript. Je rappelle qu'à l'époque tout le monde était en RTC, il n'y avait pas d'ADSL. C'était très difficile. Les CSS se sont très rapidement imposés pour ces raisons d'avantage par rapport à JSS et puis d'autres propositions. Mais l'adoption a été très lente. Au début, c'était une spec CSS1, si vous avez regardé. C'est extrêmement vague, c'est mal spécifié, il y a des trous partout. La grammaire est fausse. Mais l'idée était présente, quoi. Et c'était, si vous voulez, CSS a suivi le même chemin qu'HTML. Au début, c'était cracra, mais ça avait le mérite d'être là. CSS, au début, c'était cracra, mais ça avait le mérite d'être là. Alors là, on a un Écossais grand, les cheveux jusque-là, habillé en baroudeur, qui a débarqué, qui est un type absolument phénoménal. J'ai jamais vu un type animer une salle comme ça. Je veux dire, Tristan Nito à côté, c'est un pygmée. En tutu rose, mais un pygmée. Et Chris a non seulement animé, mais il a fait... il a imposé un style au CSS Working Group absolument extraordinaire. Il a tenu ça à bout de bras et ça a donné les CSS2. CSS2, c'était mieux, plus joli, plus fort, plus de features. Malheureusement, on a aussi eu des sous-spécifications. Je sens qu'il va me dire 15 minutes, hein, attends, je sais pas pourquoi. Des sous-spécifications et plus grave, on a eu des choses qui étaient totalement inimplémentables. Ou presque totalement inimplémentables. Pour des raisons de complexité et de poids d'implémentation dans le navigateur. Ça aurait demandé une telle énergie et un tel temps pour développer ça que c'était pas réalisable. Il y a eu une autre classe de choses qui ont été, et ça on n'avait pas prévu du tout, extraordinairement difficilement implémentables, c'était les web fonts que vous trouverez dans CSS2, qui était la possibilité de télécharger les fonts par le réseau. Si vous avez une page qui utilise une certaine fonte de données et que vous ne l'avez pas sur le système, dire ah mais la fonte elle est là et je la charge exactement comme je charge une image. Ouais, mais c'était sans compter les fondeurs de fonte. Parce que je peux vous dire qu'une fonte, si vous ne le savez pas, c'est l'objet le mieux protégé au monde. Il n'y a pas d'autre objet qui bénéficie d'une protection de ce type. Vous essayez de faire une copie, enfin à l'époque, essayez de faire une copie d'une fonte et la mettre en disponibilité, vous aviez un procès sur le cul tout de suite. Même si vous étiez un petit étudiant dans un... Ça a changé parce qu'il y a eu des jurisprudences en la matière, mais ça reste un objet excessivement difficile à mettre en téléchargement. L'adoption a été assez lente, on va revenir aux commandes de l'adoption parce que c'est quand même un truc assez incroyable et je suis pas sûr que vous êtes bien au courant de comment ça s'est fait. Alors j'ai parlé des working groups, du HTML working group et CSS working group pour les deux que je connais bien. Comment ça marche? Le W3C est un consortium industriel. Donc vous ne pouvez pas adhérer au W3C. Je crois qu'il y a un seul exemple d'un individu membre du W3C, James Clark. Il y est plus? Il y a été? Oui. Oui, non mais oui, c'est vrai que pour lui c'est une goutte d'eau dans l'océan de sa fortune, mais tout de même, c'est, je crois que le type était tellement important et tellement génial que c'est le seul individu qui a jamais été membre. Ce n'est pas, au contraire de l'IETF, une mailing list totalement publique à laquelle vous pouvez participer. Il y a des mailing lists publiques au W3C, mais qui sont en gros des listes de feedback et d'intérêt général. La standardisation elle-même se fait en général en privé, parce que à la base, c'était pour éviter la foire d'empoigne de l'IETF. Donc, les membres des working groups sont désignés par l'entreprise membre du W3C qui dit, allô, W3C, vous venez de former tel groupe, ça m'intéresse beaucoup, j'ai pas de droit intellectuel en la matière, ou alors uniquement là-dessus, et je voudrais vous envoyer monsieur pour aller dans votre working group. Ou d'ailleurs deux personnes. Ça arrive parfois. En général, ça se passe bien. Parce que les gens sont de bonne volonté. Et puis parfois, il y a un gros conflit, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ne viennent pas pour la beauté de la chose et le standard pour le standard. Ils viennent standardiser leurs suggestions et leurs idées pour essayer d'avoir un avantage économique. Donc on en revient à ce que j'avais dit hier en commentaire, sans le pognon, et c'est un des problèmes majeurs de l'accessibilité, sans le pognon, sans l'air de la guerre, on ne va pas travailler. Il y a besoin de cette incentive, disent les Américains. Et ça fait beaucoup. Donc, de temps en temps, quand vous avez une entreprise qui sent qu'il y a un avantage concurrentiel majeur dans un coin, et une autre qui a un autre avantage concurrentiel majeur, mais avec deux propositions différentes, alors là, vous avez un clash énorme, ce qui nous donne des heures joyeuses au W3C. Il y en a deux qui se mettent sur la gueule, parfois il y en a d'autres qui regardent et qui comptent les points, c'est assez sympathique. Ça donne des discussions de couloir vraiment très animées, et parfois... ça donne rien. C'est-à-dire, soit on peut arriver à un compromis mou, ce qui est une catastrophe. Ça peut donner le choix de l'un des deux. Alors là, l'autre est pas content du tout et ça se passe très mal. Ou parfois, ça donne rien du tout. C'est-à-dire que l'avancée n'arrive pas. Donc, il faut le savoir aussi. Le résultat des travaux d'un working group, c'est un compromis. Tout compromis est quelque chose. Comment dire? C'est la meilleure des plus mauvaises solutions. Voilà. C'est comme c'est Churchill qui disait que la démocratie, hein, c'est pareil. C'est une solution. On pourrait faire sans aucun doute nettement mieux, mais malheureusement pas dans le contexte que nous est proposé. Alors, on a une conférence téléphonique hebdomadaire au minimum, en général d'une heure, bien entendu en anglais. Donc, si vous ne maniez pas la langue de Shakespeare, c'est inutile. Ça peut donner des heures assez joyeuses pour les francophones que j'étais au début, du style vous discutez avec votre accent français, et puis vous avez un gallois qui répond à un bègue new-yorkais. Et le gallois est né en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un exemple réel. Je vous laisse imaginer, vous débarquez, c'est la première audioconf que vous faites en anglais, un téléphone, ça change les voix. Donc la standardisation, ça peut être assez fun parfois. On se réunit tous les 3 mois environ, donc 4 fois par an. On essaye de tourner sur tous les continents présents dans un working group. Donc la standardisation implique des déplacements, donc un coût. C'est 20% du coût d'un ingénieur par an. C'est des confs téléphoniques avec des numéros internationaux appelés, ou en France, on a la chance d'avoir un bridge téléphonique. Et c'est vraiment de l'investissement, quoi. Donc il faut avoir un retour sur investissement. Et il y a les mailing lists, bien entendu, qui peuvent être plus ou moins verbeuses. Donc le champ de bataille, c'est le W3C. Comme je l'ai dit, les usagers n'y sont pas bien représentés puisqu'ils standardisent pas. Je crois que le seul officiellement représentant des usagers s'appelait le HTML Writer's Guide, qui est une véritable catastrophe. Oui, Carl.
Il y a pour HTML, oui, mais il y a des gros groupes industriels qui ont tellement d'utilisateurs, oui, qui sont au sein du W3C afin de représenter ces utilisateurs. Boeing, Chevron, Texaco, etc. Oui. Mais au sein du groupe HTML, t'as raison.
J'allais en parler. Non, c'est pas une figure, j'allais vraiment en parler. Mais le problème est que ces gens-là, encore une fois, voient les usagers par le bout de leur lorgnette marketing du com, et que, puisque tu parles d'AOL, membre du CSS Working Group, je rappelle qu'AOL n'est pas connu pour être un fantastique développeur d'innovation. Hein? Oui, mais moi j'ai été employé d'AOL, je peux le dire. Franchement, quand ils parlent des usagers, c'est essentiellement pour citer les chiffres des abonnements qui baissent plutôt que d'autres choses. Hein? Je veux dire, AOL, W3C, c'est une Netscape, pas AOL. Donc je vais mitiger un peu ton propos. Les objectifs industriels et les objectifs d'une société savante, genre W3C, c'est bien entendu assez souvent en choc frontal. Le W3C, lui, c'est leading the web to its full potential. C'est l'avenir du web, c'est la beauté de l'aspect. Enfin bon, c'est le futur, quoi. C'est la grandeur de la chose. Ils ont entièrement raison, il faut le faire. Et les industriels, c'est, excusez-moi, mais j'ai mon actionnaire derrière, il faut sortir de nouveaux produits. Donc il y a des fois, on n'est pas tout à fait d'accord. C'est normal, mais ça peut être une crise assez difficile à gérer de temps en temps. Le time to market, malheureusement, nous impacte. Le processus de travail au sein du W3C est très codifié. Il y a un document qui s'appelle le Process Document qui détaille comment nous travaillons, quels sont les documents à produire, quel est le cycle de vie des activités, comment est-ce qu'on renouvelle une activité, comment est-ce qu'on publie un document, qu'est-ce que c'est qu'un document de brouillon, un document de première recommandation proposée, etc., etc., etc. On est tenu de se conformer à ça. Bon, alors, il y a l'article de la loi, et puis ensuite, on ouvre un petit peu, parce que, bien entendu, on peut pas être plus royaliste que la reine. Il faut parfois un peu de pragmatisme. On y arrive, heureusement, au sein du W3C. Il faut savoir que c'est possible au W3C, que c'est un grand bienfait. Il y a d'autres organisations de normalisation internationale, comme l'ISO, par exemple, où c'est rigoureusement impossible. Le process document est la loi absolue à l'ISO. Pourquoi est-ce que le W3C s'est monté? C'est essentiellement donc pour faire un barrage j'ai mis Netscape Extensions pour donner un nom, mais en gros au bordel organisé des extensions propriétaires et des discussions absolument chaotiques et à la non-interopérabilité. Le W3C a 2 mérites immenses. C'est la première fois qu'on a introduit l'internationalisation sur l'Internet. Parce qu'avant l'internationalisation d'Internet, c'est US ASCII partout. Vous parlez une autre langue? Démerdez-vous. Vous utilisez un autre jeu de caractères? Un autre alphabet? Démerdez-vous. Vous êtes convoyant? Démerdez-vous. Il a fallu que le web arrive pour qu'on se préoccupe de ça. Et l'accessibilité, bien entendu, je pense que c'était la première fois qu'on parlait d'accessibilité sur Internet. C'est le web qui a amené ça. Alors, XHTML2, pour ceux qui ne le savent pas, est une preuve. XHTML2 est une preuve de l'existence du diable. Quand on dit XHTML2 sur une scène, il faut brancher la clim parce que l'odeur de soufre. Je suis très sérieux. HTML4 est sorti en 1997. Nous sommes en 2006, 9 ans plus tard, et le successeur de la lingua franca du web n'est toujours pas sur la table. Qu'est-ce que c'est que ce boulot de merde? Excusez-moi, mais c'est une catastrophe. Et moi, j'ai été membre du HTML Working Group, mon entreprise devient membre officiel du HTML Working Group du W3C au 1er octobre, donc je me tape dessus aussi. C'est pas dirigé essentiellement sur 4 personnes. C'est on a merdé. Mais alors complètement. XHTML2, si vous allez sur Google et vous tapez miserable failure, c'est George Bush qui sort. En fait, ça doit être XHTML. XHTML2 est totalement incompatible avec l'ascendant. Alors, ce n'est pas un bug, c'est une feature. Donc imagine. Non mais je vous assure, hein, c'est marqué dans la spec. La compatibilité ascendante n'a pas été prise en compte volontairement. Imaginez, vous êtes un éditeur d'un site monumental, genre CNET. CNET, je sais pas quelle est leur base documentaire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'en 1997, ils avaient 60 millions de documents. Donc, ils ont développé des moteurs monumentaux, il y a bien entendu énormément de stockage en XML derrière, mais il y a des moteurs monumentaux et des sites monumentaux avec un investissement sur HTML et XHTML colossal. Vous les voyez vraiment investir? Et passer XHTML2 du jour au lendemain comme ça, mais j'y crois pas un dixième de seconde. On dit qu'on va fournir des outils pour migrer de l'un à l'autre parce que c'est tous les deux XHTML1 et XHTML2 du XML, mais rien que ça, le coût induit est phénoménal. Donc un, je n'y crois pas. Deux, c'est un compromis mou, et alors là, en termes de compromis mou, c'est une véritable catastrophe. Les solutions techniques sont souvent épouvantables. C'est-à-dire qu'on est très très loin de l'objectif de qualité qu'on pourrait avoir pour préparer le futur du web ou l'objectif d'innovation. Les guerres internes ont été telles qu'on a pris la solution, mais vraiment c'est la plus basse pour être sûr que tout le monde soit d'accord. Moi j'appelle pas ça vraiment une standardisation efficace. Il y a juste le monde mobile qui s'intéresse un petit peu avec XHTML2. Parce que il y a des choses qui ressemblent beaucoup avec XHTML2 déjà dans le monde mobile, mais bon, à part au Japon et en Asie, je suis désolé, mais ça suffit pas pour faire le web. Le web aujourd'hui est HTML4. Un point paroxystique de ça, c'est l'absence absolue des grands éditeurs de navigateurs du HTML Working Group. Microsoft est présent, mais est totalement muet. Ils ont rien dit, rien fait depuis au moins 2 ou 3 ans, en disant ouh là là, c'est une telle merde XHTML2, ça, je vous donne un petit scoop, ils ont même, à un moment, envisagé de refuser que leur nom soit mentionné dessus. C'est pour vous dire à quel point c'est une merde. Parce que d'habitude, Microsoft met son champol partout. Bon, à l'heure des charges, le W3C serait pas non plus ce qu'il est aujourd'hui si Microsoft n'avait pas été là au début, parce que le lancement du W3C et de ses premiers working groups, Microsoft était partout, dans tous les working groups présents, avait un ingénieur qui travaillait proprement, faisait des suggestions et standardisait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous allez être un peu surpris, Microsoft mérite un grand bravo, parce que sans eux, la standardisation du web n'aurait pas eu. Je suis pas soupçonnable, d'anti-microsoftisme primaire, secondaire peut-être. Un détail aussi assez paroxystique qu'on vient seulement de découvrir, c'est que XHTML2 a standardisé les sections et les titres de sections que vous avez vus dans l'exemple de 1986 de tout à l'heure en HTML, d'une telle manière que CSS ne peut pas les styler. Je trouve ça assez extraordinaire, vous avez les deux specs piliers du web à l'intérieur du W3C, il y a une incohérence entre les deux. Alors vous pouvez dire c'est le problème d'HTML ou c'est le problème de CSS. Certes, ça n'a aucune importance. Le problème est là. Et le problème ne devrait pas avoir lieu. C'est un problème, on est sur un problème d'architecture fondamentale du World Wide Web, et ça c'est incroyable. Et le fait que le HTML Working Group ne s'en saisisse pas, parce qu'ils s'en sont pas saisis, j'ai eu des réponses du chairman absolument hallucinantes à ce propos, est un élément qui me fait craindre le pire. Donc aujourd'hui, XHTML2 est un mauvais compromis, incompatible avec l'existant, qui met un temps fou à arriver, qui ne propose pas les solutions techniques correctes et qui ne sera pas, a priori, implémenté par les navigateurs. Moi, j'appelle ça un échec absolu qu'il faut jeter tout de suite parce que ça coûte une fortune. C'est plusieurs ingénieurs qui passent un temps fou. Ça coûte. Il faut faire refaire les choses propres. Malheureusement, c'est plus compliqué. Alors, pour CSS, on va faire un peu plus vite puisque le temps passe. Est-ce qu'on arrive à l'âge mûr? Alors, CSS2, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait des problèmes de sous-spécification, de non-implémentabilitationnage, le CSS Working Group a focalisé sur CSS 2.1 après la sortie de CSS 2 en 98, qui était en gros réadapter CSS 2 au nouveau process document qui voulait que chaque feature doit avoir deux implémentations interopérables. Alors c'était super, l'idée de base était géniale, faire un truc propre, qui soit bien compris par tout le monde. Il y a juste un détail, c'est qu'on a décidé ça en 98 et qu'en 2006 on y est encore. Donc c'est pareil, on y a passé 8 ans, et pendant ces 8 années-là, on n'a pas vraiment développé CSS 3. On a focalisé sur CSS 2.1. C'est aussi un élément qui nous dit que quand on bosse sur les standards, développer un standard peut être contre-productif. Et en la matière, quelque chose d'excellent à la base nous a foutu dans la merde sur CSS 3. Les auteurs de documents que vous êtes réclament à corps et à cri, je peux vous dire que le nombre de mails qu'on reçoit sur le sujet est élevé, les nouvelles features de CSS 3. Vous voulez tous les colonnes, vous voulez tous les footnotes partout, vous voulez tous des compteurs propres, des generated content améliorés, vous voulez tous le grid layout, les media queries, des choses comme ça. Elles sont implémentées par certains navigateurs, les autres attendent, parce que c'est pas complètement spécifié, on n'a pas fini. Et on n'a pas fini, pourquoi? À cause de CSS 2.1. On va avoir ainsi un autre problème majeur, c'est que puisqu'on a développé CSS 2.1 et qu'on l'a modifié par rapport à CSS 2, il va falloir qu'on fasse un merge avec CSS 3, qui lui, à la base, a été développé sur la base de CSS 2. Je sais pas si vous y retrouvez. Hein. Je crois qu'on va tous basculer à 4, parce que c'est pas possible. En plus, les CSS, c'est pas des versions, c'est des levels. Vous n'y comprenez rien? C'est normal. C'est fait pour OpenLee et Bert Bloss. Les deux inventeurs. Les autres pigent pas non plus. Hein. Microsoft et Netscape pigent pas non plus. Mozilla, maintenant, on commence à être nombreux à vouloir des versions. Ça pose des problèmes monumentaux de validation de vos CSS, tout ça. Comment est-ce que vous validez une CSS? Puisque vous ne savez pas a priori quel est le niveau de CSS que vous allez avoir. Est-ce que votre feuille de style est en CSS 1? Ah, si elle l'est, mais alors pourquoi est-ce que vous avez un tel pseudo-classe ou tel pseudo-élément qui devrait pas y apparaître. Ah oui, non, c'est du CSS 2. Non, c'est du 2.1. Mais non, c'est du 3. Indémerdable. Donc là, le CSS Working Group a aussi merdé. Et on est, encore une fois, on est que des humains. Un standard, surtout, ne déifiez pas le standard. Ne déifiez pas les CSS. J'ai trop entendu hier des, faut pas faire de tableaux, faire des CSS. C'est une connerie. Et là, je vais prendre le contre-pied de beaucoup de gens. Je l'ai entendu une seule fois hier. Si vous avez des données tabulaires, il est normal de faire un tableau. Ah. Oui, mais combien de fois j'ai entendu dire que fais pas de tableau, table, td, tr. Non. Si vous avez des données tabulaires, il est normal d'utiliser un tableau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses que les tableaux savent très très bien faire et que les CSS savent très mal faire. Faut pas oublier que le web, vos usagers de web ne regardent pas le markup et la feuille de style, ils regardent le web. Et donc si vous voulez arriver à un effet donné que la technologie ne vous permet pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous dites ah non, la technologie permet pas, ou vous faites? Alors si vous êtes un puriste, vous dites ah oh ben je fais pas. Et si vous êtes le client de Laurent Glohagen, il dit mais j'ai rien à te péter mon vieux de ta technologie, vous allez me le faire, et vous le faites. Et c'est tout. Donc, le standard, c'est bien beau, mais le pragmatisme et la vie réelle vous donnent un autre éclairage. Et ça, il faut pas l'oublier du tout. Quand les papes des standards vous disent « jamais de la vie, ne prenez jamais ça pour argent ». Le dernier point, les deux derniers points concernant CSS 3, c'est premièrement la complexité assez phénoménale des documents. Je crois que de mémoire, on était à 200 et quelques pages sur CSS 2. À mon avis, si on descend en dessous du millier pour CSS 3, on aura du bol. Certaines features de CSS3 ne sont comprises que par la personne qui a écrit la section en question. Je crois qu'on a dû se préoccuper beaucoup plus de la restitution graphique du Klingon que de certaines langues européennes. Vraiment, alors si vous voulez mélanger de l'écriture mongole verticale avec je sais pas moi du cri, donc une langue indienne du nord du Canada, tout ça dans un navigateur hébreu, vous pourrez le faire. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans tous les sens. Mais alors, il y a certaines features de base. Alors, étrangement, on est passé complètement à côté. C'est une catastrophe totale. C'est la geekerie. C'est encore une fois, on est que des humains. Et il y a certains geeks dans le working group que je ne nommerai pas, qui sont totalement perfectionnistes. Je veux dire, c'est des constitutionnalistes, vous voyez. On étudie pendant 8 heures la position de la virgule et son effet sur le rendu si on changeait la position de la virgule, alors qu'ils ont complètement oublié le côté pragmatique de la chose. Le deuxième point qui est problématique avec CSS, c'est que CSS, c'est toujours un truc non XML. Et heureusement, parce que vous avez pu l'apprendre assez vite, je veux dire, lire H1 accolade color.red, c'est human readable. Et je vous défie de trouver aussi lisible le XSLFO correspondant. D'abord, ça ne tiendra pas en une ligne, et ça sera absolument abitique. Donc on se fait attaquer en permanence par les gens d'XML, de XSL, de XPath. Mais pourquoi vous avez inventé les sélecteurs? Et nous on répond, du con, les sélecteurs ils étaient là avant XPath. Et c'est vous qui avez inventé la roue. Donc on a un petit problème d'incompréhension. C'est fondamental, certes. On a fait quelques meetings communs qui ont eu pour résultat une incompréhension encore plus profonde. Et qui finalement n'ont rien donné. Si on a harmonisé certains noms de propriétés et certaines valeurs, mais globalement on se comprend pas. XSLFO c'est fait pour batch processing. Il n'y a pas une seule feuille de style XSLFO sur le web, tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul navigateur qui les comprend. Et le web est CSS. Et alors ça noue les tripes du genre de XML quand même. Merde. Et je crois que il n'est pas prévu dans un avenir proche que leurs tripes soient dénouées, parce que et vous. Et nous, CSS Working Group, on n'est pas prêt de lâcher la syntaxe simple de CSS. Alors, je vais accélérer. Je vais juste en une citation. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de le faire, mais c'est une citation de moi-même. Je crois que ça va être la première fois que je le fais. J'ai écrit ça en avril 2003, que le futur de web devrait se baser sur quelque chose de radicalement différent, d'une part, et d'autre part, un successeur à HTML4. Et il semblerait bien que 3 ans plus tard, j'avais un tout petit peu raison. Le problème, on a été, c'est moi qui ai commencé ensuite, on a été quelques-uns à le dire, mais on nous a pas du tout écouté. Donc, aujourd'hui, le sémantique web, et je vais me faire allumer par Karl, une fois de plus, ne concerne qu'un tout petit groupe de gens. C'est vrai qu'il y a des gens très intéressés par mettre beaucoup plus de sémantique dans le site, mais c'est une minorité des gens. Mon père, quand il fait son site web pour parler du Yiddish, je veux dire, la sémantique, il n'y a rien à taper. L'important, c'est qu'il mette ses documents en ligne et que quelqu'un qui est à New York ou en Moldavie puisse y accéder. Les petits pépins du W3C en la matière, quand même, et la désaffection des vendeurs de navigateurs, enfin, des implémentants de navigateurs pour HTML, ont amené à la création d'un truc qui s'appelle le What Working Group, que ses détracteurs appellent la What Task Force, ce qui en initial donne WTF, qui veut dire What the Fuck. Vous voyez, je vous dis, on s'apprécie beaucoup dans le monde de la standardisation. Ces gens-là, alors là, par contre, dans le What Working Group, il y a Mozilla, il y a Opera comme membre fondateur, il y a presque Microsoft, tout le monde est là. Hein, et aujourd'hui, c'est le What Working Group qui prépare la future lingua franca du web et pas le W3C. Donc tout ça revient doucement vers le W3C parce qu'on considère tous que merde, le W3C il est là et c'est là que ça doit se faire. On est tous de bonne volonté, n'est-ce pas ? Donc on espère tous que le W3C va finir par se rendre compte qu'ils ont pondu une horreur qu'il faut. Non mais il faut parfois faire son autocritique et qu'on va arriver à basculer sur quelque chose d'un petit peu plus rationnel et raisonnable. Maintenant se pose une question assez importante. S'il est arrivé une cata comme ça pour HTML, est-ce qu'il n'arrive pas une cata comme ça un peu pour le DOM?
qui est en perte de vitesse assez colossale au W3C, qui n'est plus édité du tout. Moi, j'ai fait une proposition au CSS Working Group d'étendre le DOM aux agents de, enfin aux outils d'édition, qui s'appelait le CSS Editing Object Model, et qui a été refusé tout simplement parce que la contrainte s'en est cul. Je trouve ça assez consternant. Si ça continue, je sens que c'est le Web Working Group qui va récupérer et CSS et le DOM. Et ce jour-là, le W3C sera dans une un tel pépin, parce que si ça arrive, c'est la presse qui va en parler. Donc je dis pas ça content. Enfin bon, quand même. Mais la presse va en parler, et là, je veux dire, aux États-Unis, ça va faire extrêmement mal. Je sens que les membres, il va y avoir une désaffection des membres du W3C, ça va être une véritable catastrophe. Donc en guise de conclusion, j'ai deux conclusions. Premièrement, la standardisation, c'est fun. Donc moi, j'ai rejoint ça en 96-97, après avoir standardisé à l'IETF. Qu'est-ce qu'on se marre. C'est... Parfois, on se met sur la gueule, mais c'est vachement sympa. D'abord, on voyage dans le monde entier, c'est quand même pas désagréable. Je parle beaucoup mieux anglais que précédemment, je rêve en anglais. Bon, je rêve dans pas mal d'autres langues, mais ça, c'est un autre détail. Quand vous arrivez dans la standardisation, vous heurtez un troupeau de gourous alors que vous vous considérez comme un tout petit. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Je veux dire, vous arrivez, vous avez à votre gauche le mec qui a implémenté des feuilles de style dans Microsoft Internet Explorer, à votre droite le CTO d'Opera. Il est bien quand même. Non, arrêtez quoi. Bon, c'est sympa. Ça peut rapporter énormément de développer des standards, puisque c'est un avantage concurrentiel de proposer son truc et qu'il soit standardisé par tout le monde, puisque vous l'avez avant les autres. Ça peut économiser énormément d'argent, on l'a vu, hein, les standards peuvent réduire le poids des pages, améliorer beaucoup de choses, la restitution, votre avantage pour la vente, le design d'un serveur web. Ça peut aussi vous coûter énormément si vous ne faites pas des standards. Si vous faites votre truc propriétaire avec les autres, il faut un standard qui va être implémenté par tout le monde sauf vous. Je peux vous dire, votre produit ne va pas durer longtemps, à moins que vous ayez un monopole. Mais les monopoles sont rares, heureusement, sauf chez Microsoft. Rappel, la standardisation, ça peut totalement échouer. Je le redis, je vous le martellerai autant de fois qu'il le faudra. Un standard n'est pas infaillible, hein. Les auteurs ne sont que des humains. VHS Betamax, SS et tableau. On l'a dit tout à l'heure, le web n'est plus qu'un ensemble de navigation, c'est un ensemble d'éditions. Les blogs ont complètement changé la donne. Pas en termes sociétal, ça je m'en fous, moi je suis un geek, je code. Il y aurait beaucoup à dire en la matière, mais c'est pas là que j'ai de ce que je veux faire. Si les auteurs sont devenus monsieur tout le monde, il n'y a plus de raison de réserver la standardisation et l'input d'information uniquement aux industries. Si le navigateur et l'authoring de documents, l'édition documentaire est en prise directe avec l'usager doit être en prise directe avec les technologies sous-jacentes. Donc je pense là que le W3C a un véritable pépin. Ils en sont parfaitement conscients. C'est très difficile à gérer, je le reconnais très bien, mais je pense qu'il va falloir s'ouvrir aux individus d'une manière ou d'une autre. XHTML2 est un canard mort. Alors, Carl sait pourquoi, avec sa proposition coin-coin, mais pourquoi un canard mort? C'est parce que un canard, quand vous coupez le head, le body bouge encore. Je sais, il m'a fallu 12 ans pour la trouver, celle-là. Et là, le body, il bouge plus non plus, quoi. C'est fini. Le canard est mort. Donc, je pense que HTML5, qui est l'aspect développé par le Watt Working Group, va rapidement tuer ce qui remue encore un peu de XHTML2, et devenir la future lingua franca du web. Il y aura peut-être un petit merge avec XHTML2, mais ça sera mieux. Les auteurs de documents que vous êtes vont très très fortement pousser sur le CSS Working Group pour qu'on se manie un peu le popotin, parce que quand même, merde, ça suffit. Et ils ont complètement raison. Donc il va falloir qu'on change un peu nos process. XForms a énormément de plomb dans l'aile, parce que le Watt Working Group a aussi une proposition pour améliorer les formulaires hérités de HTML, au lieu de faire un machin monstrueux, hyper puissant, mais monstrueux, qui s'appelle XForms. Donc on va, du point de vue des formulaires, arriver à mon avis à un status quo assez étrange de les formulaires du Watt Working Group pour monsieur tout le monde, vous, moi, et XForms pour les sites qui ont vraiment besoin de puissance et de complexité. sans faire d'Ajax. Je termine, il me reste 15 secondes. Et le W3C, ça sera ma conclusion, a absolument besoin de se réformer. Pour ça, il a besoin d'input, de gens comme moi, de gens comme vous. En France, on est très 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 peu en prise avec la standardisation. À une époque, j'ai été, à part les employés du W3C, le seul et unique Français participant activement à la standardisation du web. France Télécom n'était pas présent, et moi je représentais EDF. Je sais pas si vous imaginez, c'est hallucinant. EDF standardise le web, et le web de Télécom s'en fout. On a un vrai pépin de l'industrie du logiciel ici. Il faut qu'on change ça, il faut qu'on envoie l'input, il faut qu'on se saisisse de la standardisation en se disant que c'est un avantage économique. Il faut aider le W3C, c'est pour ça que j'y rentre, parce que je peux pas continuer à taper dessus en restant dehors. J'ai fini, les transparences sont déjà en ligne, à cette URL, donc ça sera lié à mon avis depuis Paris Web dans les 12 minutes qui suivent, non parce qu'on a du Wi-Fi, alors on les connaît, et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci.
Alors. Bon bah je vais commencer, privilège des rois. Il y a juste une petite chose que tu as dit, Stéphane. Bonjour, c'est Stéphane Deschamps, France Télécom. Alors bon, en fait j'ai deux petites remarques à faire. D'abord une sur le fait que moi j'ai découvert à travers Karl que France Télécom était au W3C pour être sincère, alors que pourtant je suis un des plus vocaux dans la boîte, pourront vous le dire les quelques personnes de France Télécom qui sont là. Donc je désespère pas qu'un jour on aille de ce côté-là.
France Télécom y est désormais et travaille activement, ouais, mais je peux pas.
Mais ils travaillent pas forcément sur cette partie-là. Ils travaillent plutôt sur les protocoles, je crois me rappeler.
Non, c'est peut-être plutôt sur le mobile, les micro-paiements, ouais. Des choses
bon,
comme
enfin,
ça.
Voilà, c'était l'anecdotique. J'avais juste une précision à donner sur quand tu dis que les tableaux. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'il faut pas oublier de faire des tableaux quand on a des données tabulaires. Je me permets juste un petit bémol sur le fait de continuer à utiliser les tableaux à l'ancienne, comme sans doute pas mal de gens dans la salle l'ont fait. Quand vous utilisez une synthèse vocale, quand vous êtes aveugle ou malvoyant, il y a des réglages de votre synthèse vocale et il y a un réglage qui lui permet de vous dire à peu près tout ce qui se passe sur la page. Et là. Une mise en page en tableau est un cauchemar et votre utilisateur, à la deuxième table, il a envie de vous tuer. Début du tableau, première cellule, vide. Voilà. Deuxième cellule, vide. Troisième cellule. Bonjour, vous êtes sur mon site.
Oui, je
suis entièrement d'accord. Je me permets juste de dire ça et après j'arrête.
Je suis entièrement d'accord. On peut quand même... D'abord, un, il n'y a pas besoin de surcharger un document de tableau. Première chose. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de faire des nests de tableaux, c'est-à-dire un tableau qui contient un tableau qui contient lui-même un tableau. Ça, c'est une erreur absolue. Bon, je reconnais, je l'ai déjà dit, je suis absolument pas un expert en accessibilité. Je reconnais mes lacunes absolues en la matière. Maintenant, j'imagine que si on a un tableau dans un document, sans cellule vide, sans un découpage en tout petit pixel pour faire de l'image, des choses comme ça, mais vraiment pour présenter des choses avec un sens. Par exemple, trois éléments dont l'un ferré à gauche, l'autre ferré à droite, l'autre centré avec de l'alignement vertical des éléments. Ça, en CSS, c'est quand même assez difficile à faire.
Je suis d'accord. Je vais juste finir en disant que si je désactive mes CSS et que je suis dans une configuration de fatigue oculaire, par exemple, je peux avoir un très très gros grossissement et ne voir que ce qui serait dans le tableau, la colonne de gauche. Joe Clark a publié pas mal d'études là-dessus où il dit, il y a des gens qui arrivent sur des sites en colonne fait en tableau. De toute façon, on leur a expliqué comment désactiver les CSS et ils ne voient jamais le contenu qui est à droite.
Ouais.
Pensez-y, simplement. Des questions ?
Oui, c'est une question par rapport à la façon dont la normalisation et la standardisation se faisaient. Tu as parlé du WAT, WTF, j'ai bien aimé. Est-ce que vous avez pu identifier une différence de fonctionnement, ou c'est plutôt une différence d'un problème humain, qui fait qu'il y a eu cette espèce de séparation entre d'une part ce que fait le WAT et d'autre part ce que va faire le W3C. Est-ce qu'il y a des différences dans la façon d'approcher les choses et lesquelles ?
Oui, il y a plusieurs différences assez fondamentales pour diverses raisons. La première raison, je l'ai dit, les développeurs de navigateurs ne sont plus dans le XHTML working. Donc, ils standardisent des trucs qui sont, excusez-moi, la mort mondiale. C'est n'importe quoi. Je n'en vois même plus de commentaires sur la spec, parce que ça sert plus à rien de commenter, vaut mieux laisser crever, quoi. C'est inutile d'essayer d'améliorer un truc pareil. De l'autre côté, il y a les vendeurs de navigateurs qui, eux, se préoccupent des performances. Par exemple, XHTML n'a pas pris en compte, si l'a pris, mais extrêmement tardivement, le fait que si vous mettez section header, pour styler ça, même d'une façon minimale, il faut utiliser des combinateurs filiaux, donc section, inside header, donc inside section, et que ça a un coût en termes de performance du navigateur, juste pour résoudre le sélecteur en question. Alors que styler H1, H2, H3, H4, H6, ça c'est pratiquement instantané. Ça coûte des micros. Quand j'ai fait cette remarque au HTML Working Group, j'ai fait un navigateur moderne, maintenant. C'est ça, sur un petit cell phone, une paire de manches. Donc, il y a beaucoup plus de pragmatisme à l'intérieur du What Working Group. C'est plus une démarche pratiquement individuelle, même si certains des gens viennent d'industriels. Je sais pas comment expliquer. C'est plus, on fait évoluer avec, les gens du What Working Group ont tous les mêmes contraintes en tête. Et ils ont tous le futur du web en tête. Et, au HTML Working Group, on a la pureté en tête. Enfin, la pureté, ça sert pas toujours très bien.
Tu peux faire un contrepoint?
Puisqu'on est là pour. Je t'attendais.
Il y a un ratage de communication au sein du W3C, c'est certain. Je crois que je l'ai vu dans tes slides, Daniel. C'est le workshop Future of the Web.
Oui.
Et là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes. Il y a deux groupes qui s'entendent pas et deux groupes qui ont une vision différente du web. Alors que ce soit pureté ou pas, ça, moi je m'en fous un peu. C'est pas tant le problème. Le problème que Daniel adresse et qui est dont il parle et qui est très important, c'est le problème des implémentations. C'est-à-dire que un standard n'est un standard que une fois qu'il est fini, finalisé et implémenté et implémenté. Donc ça c'est très très important à comprendre. Ouais. Donc les gens qui sont dans le What Working Group sont pour la plupart des gens du W3C. Ça aussi c'est quelque chose que beaucoup de gens disent. C'est des gens d'ailleurs du W3C. Non, c'est des gens qui ont décidé de former un groupe à l'extérieur du W3C.
Ils y sont tous même.
Oui pratiquement. Ouais. Et donc c'est des gens qui participent au W3C. Donc il y a des conflits internes qui font partie, comme dans toute organisation, dans toute structure, où il y a des gens qui ont des objectifs différents, des politiques différentes, et il y a un moment ou un autre, quand des gens ont trop de conflits, qu'ils n'arrivent plus à travailler, ils essayent de se séparer et ils voient ce qu'ils peuvent faire. Donc, le What Working Group, en ce moment, a fait beaucoup d'efforts pour essayer de réinjecter ce qu'ils ont développé à l'extérieur, au sein du W3C, comme Daniel a dit.
Et il y a beaucoup de résistance.
Alors, ça dépend des groupes. C'est-à-dire que, voilà. Le W3C, c'est toujours difficile à concevoir parce que comme c'est un nom et une entité, on a l'impression parfois que c'est un fonctionnement homogène, etc., avec des gens qui pensent tous la même chose. Il y a eu des crises dans le passé. C'est déjà arrivé. CSS et XSL, Daniel l'a illustré de son côté à lui, c'est normal. Du côté CSS, il y a des gens qui vous parleront de XSL comme quelque chose de supérieur de leur côté technologique. Donc, ça s'applique à différentes applications. Le CSS sera plus facile à utiliser dans les navigateurs web. XSL sera plus facile à utiliser dans l'industrie du print. Il y a eu des conflits, par exemple, entre les gens de XML et RDF au sein du W3C. Il y a eu des conflits à propos des web services. On a eu quelque chose d'énorme. Ouais, j'arrête parce que je vais pas mobiliser. Donc c'est normal. Il y a du conflit. J'espère qu'on va arriver à des solutions. Ouais, c'est ça le.
On va y arriver. On est tous de bonne volonté. Je crois qu'il y a à la base, juste pour répondre en 5 secondes et pour finir, il y a un problème d'appréciation de ce qu'est le futur du web. Après la sortie de HTML4, on a eu un workshop, une réunion à l'aéroport de San Francisco, une réunion extrêmement importante. Il y avait 500 personnes dans la salle de mémoire. Dans Hyatt Regency, c'était colossal, sur qui s'appelait le futur de HTML. Et là, on a listé un certain nombre de problèmes. Par exemple, le premier problème, c'était l'insuffisance des formules. Moi, je représentais EDF à l'époque. Avec Boeing, on s'est levé, on a dit, on a besoin de jauges, on a besoin de sliders, et on a besoin de choses de base, quoi, pour faire nos métiers. Et 9 ans plus tard, on les a pas. Alors que le What Working Group s'est attaché dès sa conception
a essayé de répondre à ce besoin et a repris les besoins exprimés au Future of HTML Workshop et a essayé de... Donc il y a un problème d'orientation.
Merci Daniel pour cette présentation. Deux choses. On peut signaler l'arrivée de Raphaël Gotter qui nous rejoint pour les tables rondes de fin de journée. Et la deuxième chose, c'est que on continue à tenir les horaires. Donc on va partir en pause déjeuner et on se retrouve à 13h30.